très heureuse que ces rendez-vous prennent la forme la forme régulière d'un travail collectif du Conseil scientifique, d'abord, du Conseil scientifique de Condorcet, et Agnès Tricoire, qui est avocate et qui est spécialiste de la propriété intellectuelle, mais qui appartient aussi à la Ligue des droits de l'homme, prendra en charge après la conférence de Mireille Delmas-Marty la discussion que j'espère nous pourrons tous avoir. Et c'est aussi une manière de rendre hommage à Jean-Marc Bonisseau que de dire que des élèves du lycée Le Corbusier sont ici présents avec leurs professeurs et que de manière plus régulière, si ça n'a pas pu se faire cette fois-ci pour des raisons de calendrier et des difficultés techniques, on va dire, d'une manière générale, ces rendez-vous sont précédés d'un rendez-vous avec les lycéens. Et les choses vont s'organiser maintenant de manière stable. Et après tout, de même que les lycéens sont invités ici, il n'est pas invraisemblable que si vous en avez envie, vous puissiez venir à ces rendez-vous avec les lycées qui ne sont pas les mêmes. Alors, ils sont plus simples, c'est-à-dire que plus directs. Il ne s'agit pas exactement de la thématique générale être représenté, contribuer, faire société. Il s'agit d'une question véritablement plus immédiate qui est pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites ? Bon. Et avec Patrick Boucheron, par exemple, pourquoi est-ce que vous êtes historien ? C'est quoi l'histoire que vous faites ? Et je crois très important d'impliquer à la fois les jeunes des lycées, leurs professeurs et leurs enseignants et le conseil scientifique dans son ensemble à ces rendez-vous. Alors maintenant, je vais passer la parole à Mireille Delmas-Marty, que je remercie vraiment infiniment d'être venue jusqu'ici. C'est long, c'est difficile, c'est pas si simple. Donc, elle est professeure honoraire au Collège de France, elle est membre de l'Académie des sciences morales et politiques, et parmi, entre autres choses, elle a fondé Pharos, qui est un observatoire du pluralisme des cultes et des religions. Ses publications sont très nombreuses, mais je voudrais signaler, comme ne serait-ce que par son titre, qui me paraît absolument caractéristique des travaux de Mireille Delmas-Marty, la série « Les forces imaginantes du droit ». Les forces imaginantes du droit, ça veut dire que le droit n'est pas quelque chose de fermé, mais qu'il est au contraire quelque chose qui est lui-même en train de se travailler sans cesse. C'est une énergie. Et parmi les titres des forces imaginantes du droit, qui constituent une série, on trouve un certain nombre qui me parlent directement, le relativisme et l'universel, le pluralisme ordonné et vers une communauté des valeurs. Très récemment, Mireille Delmas-Marty a publié un ouvrage qui vient de paraître chez Boucher-Chastel, Sortir du poteau noir, l'humanisme juridique comme boussole. Il pourra être question de cette boussole avec les lycéens un peu plus tard. Et pour l'instant, je lui cède la parole. Le titre de sa conférence, c'est « Comment préserver la démocratie, l'état de droit et les droits de l'homme à l'heure de la mondialisation ?» Merci beaucoup.
Merci. Merci pour cette occasion de revenir à Aubervilliers, parce que j'ai gardé un très bon souvenir de mes précédentes venues ici, à Aubervilliers. Simplement, j'ai donné un titre, j'ai proposé ce titre. Il est peut-être un peu ambitieux, parce que comment préserver la démocratie, l'état de droit et les droits de l'homme à l'heure de la mondialisation ? Peut-être aurais-je dû dire, peut-on préserver ou même peut-on sauver l'humanisme, c'est-à-dire la démocratie, l'état de droit et les droits de l'homme à l'heure de la mondialisation ? En tout cas, j'ai choisi ces trois mots parce que en fait, ils forment un ensemble, ou ils formaient un ensemble. Il faut quand même se souvenir qu'il a fallu des siècles pour construire ces trois concepts, la démocratie, l'état de droit et les droits de l'homme. Ça a pris beaucoup de temps et l'idée de les réunir en un triptyque, elle n'est pas venue tout de suite. La démocratie est apparue bien avant l'état de droit. L'état de droit est apparu en parallèle des droits de l'homme, mais pas forcément regroupé avec. Et l'idée de regrouper les trois, de faire une sorte de triptyque, oui, elle est venue à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Elle s'est développée aussi au moment de la fin de la guerre froide. Au fond, c'était l'idée qu'il y a un humanisme qui est éthique, mais qui peut marcher la main dans la main avec le libéralisme. On croyait, après la Deuxième Guerre mondiale, on croyait qu'il y aurait une mondialisation heureuse. On y croyait, c'est l'expression qui a continué à être employée jusque récemment. Maintenant, on n'oserait plus l'employer. Mais on y croyait. Et le triptyque avait une sorte de succès. C'était devenu... Alors, il y a le côté langue de bois aussi. C'était un peu la langue de bois d'accoler les trois mots. Mais il y avait tout de même une sorte de respect pour cet ensemble, au point que même la Chine avait petit à petit introduit ces mots-là dans sa constitution, ce qui n'était pas évident quand on se souvient qu'à l'époque de Mao Tse-tung, il n'y avait plus de droit du tout en Chine. À partir de 1978, on a vu apparaître l'idée d'un état de droit socialiste. Et donc les mots état de droit sont apparus dans la Constitution. Après, on a vu arriver les mots droit de l'homme. Et le mot démocratie n'a jamais été très loin, parce que la Chine avait eu un mouvement après la chute de l'Empire pour la démocratie. Donc c'était des références. Et encore une fois, ça avait pris des siècles avant de s'affirmer à ce point. Et je dirais que ce qui me frappe, c'est qu'il a fallu à peine peut-être une dizaine ou une vingtaine d'années, en gros les années du XXIe siècle, pour déconstruire ce qui avait été si lentement et patiemment construit. Alors, non seulement il y a déconstruction, mais on nous annonce régulièrement maintenant un effondrement de toute cette civilisation qui avait essayé de se construire à travers ces trois mots. Et quand on constate ça, on ne peut pas éviter la question, mais alors que s'est-il passé? Que s'est-il passé depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à maintenant pour arriver à cette déconstruction qui fait qu'on ose à peine en parler de droits de l'homme? On a tout de suite l'impression que c'est quelque chose de totalement utopique, qui n'a rien à voir avec le monde réel. C'est quand on parle de droits de l'homme, quand on parle de démocratie, on est guère loin de ça, et l'état de droit aussi. Alors, qu'est-ce que s'est-il passé? Je crois qu'il y a plusieurs choses qui se sont conjuguées. Il y a d'abord ce que certains, je crois que c'est Edgar Morin qui avait employé la formule, appellent une polycrise. Il y a plusieurs crises à la fois. Il y a la crise sécuritaire qui est... Il y a toujours eu le conflit sécurité et liberté. Mais le conflit est devenu beaucoup plus violent à partir des attentats du 11 septembre 2001, parce qu'au lendemain des attentats, le président américain a adopté le fameux Patriot Act, dont le nom est déjà tout un programme. Mais à travers cette décision qui a été prise de façon régalienne, eh bien, en fait, on a abandonné une grande partie de l'état de droit, notamment la séparation entre les pouvoirs de l'exécutif, le président, et puis le pouvoir législatif, le Parlement, et le pouvoir des juges. Donc il y a eu ce moment des attentats du 11 septembre 2001 qui a, au fond, levé un tabou, c'est-à-dire qu'on n'osait pas critiquer l'état de droit, les droits de l'homme, on ne les appliquait pas toujours. Mais on n'osait pas les critiquer. Et d'un seul coup, voilà qu'un pays qui est considéré comme une grande démocratie, comme un pays où on respectait tous ses principes, ce pays-là a fait le contraire. Il donne les pleins pouvoirs au président. Il annonce et soutient officiellement l'emploi de la torture, l'emploi de traitements dégradants. on a vu à l'époque des photos insoutenables de la façon dont les prisonniers étaient traités à Abu Ghraib, à Guantanamo. Donc il y a eu... Oui, c'est comme un tabou qui aurait été levé. On n'osait pas critiquer l'état de droit et les droits de l'homme, et d'un seul coup, une grande puissance qui se voulait démocratique est en train de les déconstruire. Alors, il y a eu une piqûre de rappel, si j'ose dire, avec les attentats de 2015, en France cette fois. Et la France n'a pas attendu les attentats de 2015 pour faire des entorses assez sérieuses, assez graves aux droits de l'homme et à l'état de droit. Mais c'est vraiment là qu'on a été jusqu'à proclamer l'état d'urgence, et surtout le prolonger. Le proclamer, ça n'avait rien d'anormal. Mais l'état d'urgence, c'est un état provisoire et il a été prolongé longtemps, trop longtemps. Alors, ça, c'est une première crise. Mais il y a en même temps, en parallèle, et surtout, évitons de faire l'amalgame, mais il y a en parallèle la crise humanitaire, je dirais, liée aux migrations et aux conditions dans lesquelles les migrants sont ou ne sont pas accueillis, notamment en Europe, notamment chez nous. Il y a en même temps une crise sociale. Les inégalités qu'on pensait voir, sinon disparaître, du moins réduites par la politique d'ouverture des marchés, n'ont cessé de croître. Et la grande pauvreté, nous travaillons beaucoup actuellement à l'Académie Sciences Morales notamment et au Collège de France aussi avec le mouvement ATD Carmonde, la grande pauvreté n'a pas diminué, la pauvreté héréditaire, malgré les sommes considérables de profits qui circulent sur la planète, elle n'a pas diminué. Alors il y a la crise sociale et puis c'est peut-être ce qui va nous aider, paradoxalement, il y a la crise climatique. La crise climatique, je me suis demandé à plusieurs reprises, je n'ai pas la réponse à l'heure actuelle, mais je me suis demandé si ce n'était pas par là qu'on allait changer le chemin, changer la route, bifurquer et construire peut-être quelque chose qui ressemblerait à une gouvernance mondiale. En tout cas, pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu ces cinq crises simultanées. Mais en même temps, il y a un autre facteur qui doit expliquer ce sentiment un peu de champ de ruine ou de déconstruction qu'on peut avoir à l'heure actuelle, c'est que les réponses qu'on a trouvé à faire sont des réponses qui sont fortement ambivalentes. Alors, face à la crise sécuritaire, il y a l'ambivalence des nouvelles technologies. Parce que les nouvelles technologies, au fond, c'est un formidable outil pour la démocratisation, pour l'accès à l'information, pour la constitution de groupes de manifestations extrêmement rapides, avec une structure très simple, très légère et plutôt horizontale que verticale. Donc, les nouvelles technologies, c'est un outil formidable de démocratisation, de développement des droits de l'homme et de l'état de droit. Mais en même temps, c'est un assujettissement potentiel, un contrôle permanent. Et vous connaissez les derniers développements autour de la reconnaissance faciale, par exemple, qui amène à placer toute une population sous surveillance permanente et en utilisant en plus l'Internet et les réseaux sociaux. Donc là, il y a une véritable ambivalence qui est très difficile à exploiter, si j'ose dire, parce qu'on voudrait garder les aspects positifs et on voudrait freiner ou bloquer les aspects négatifs de surveillance généralisée. Mais c'est pratiquement extrêmement difficile, d'autant que ces nouvelles technologies, c'est une expression un peu commode pour décrire des technologies qui émergent dans des domaines très différents. Ça peut être les biotechnologies, ça peut être les technologies autour des réseaux sociaux, autour d'Internet, ça peut être les nanotechnologies. Ce qui est impressionnant, c'est la vitesse à laquelle tout ce paysage a changé. J'avais pris quelques dates là, qui sont assez parlantes. Ça montre à quel point le panorama a été transformé. Parce que Google, c'est 1998. Wikipédia, c'est 2001. Les réseaux sociaux, c'est 2002. YouTube, c'est 2005. Les smartphones, 2007. La présentation des premières armes létales autonomes, ALA, sous ce joli nom d'ALA, ce sont en fait les drones tueurs. Alors ça, c'est l'officialisation, c'est 2013. Les premiers usages remontent à plus haut. Je pense que ça commence avec l'Afghanistan déjà. En tout cas, on a ces réponses ambivalentes avec l'effet d'accélération et l'effet d'entrecroisement, c'est-à-dire les différentes techniques qui sont mises en place se mêlent et se décuplent, en fait, leurs forces ensemble. Et puis, ces nouvelles technologies pénètrent extrêmement vite aussi parce qu'il y a une sorte de renoncement volontaire des personnes concernées, nous tous. Il y a un livre qui vient de sortir que je trouve très intéressant et assez impressionnant, La société d'exposition, désir et désobéissance à l'ère numérique. C'est Bernard Harcourt, qui est professeur à la fois aux États-Unis et à l'École des hautes études. Et alors, il montre très bien comment les nouvelles technologies exploitent notre désir illimité d'accéder à tout, tout le temps et sans attendre. Au fond, c'est nous qui sommes demandeurs. Ça ne nous est pas imposé de façon autoritaire. Non seulement nous sommes consentants, mais nous sommes demandeurs. Et ça conduit à une accélération parce qu'il y a cette demande, ce désir illimité. Il a une image dans son livre que je trouve très frappante. C'est, voilà ce qu'il dit. La mutation est d'autant plus rapide que l'expérience numérique obéit à des pulsions narcissiques plus puissantes encore que celles du sexe ou de la nourriture. Nous passons d'une plateforme et d'un appareil numérique à un autre comme un rat dans la boîte de Skinner qui, en appuyant sur des leviers, c'est une des expériences qu'on fait avec les rats, cherche désespérément à être toujours plus stimulé et satisfait. On ressemble un peu à ça maintenant, dans une vision, bien sûr, excessive et noire, mais qui n'est quand même pas mauvais d'avoir à l'esprit. Alors, il y a aussi l'ambivalence qui est plus connue de la mondialisation elle-même, la mondialisation économique et financière. Ça va commencer progressivement depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais il y aura un moment d'accélération après la chute du mur de Berlin en 1989, c'est 1994, c'est la création de l'Organisation mondiale du commerce, dans laquelle d'ailleurs la Chine va très vite demander à entrer et va faire partie. Alors à partir de là, on a l'ouverture totale pratiquement des frontières, capitaux et investissements, marchandises, populations, services. Ça favorise le développement, c'est le côté positif, parce que là aussi, il y a une ambivalence forte. Le côté positif, c'est de favoriser le développement. La Chine a connu un développement inimaginable auparavant. Mais ce développement, il est fondé sur des postulats qui sont très discutables. C'est le postulat de l'efficacité du marché et le postulat que cette efficacité garantit l'équité. Or, les inégalités n'ont cessé d'augmenter. Alors, bien sûr, la référence chiffrée, c'est plutôt légèrement élevé, du revenu les plus bas, mais ce qui est important, ce sont les inégalités qui, elles, ont augmenté. Alors, il y a autre chose qui rend difficile la lutte contre la mondialisation économique et financière, c'est que les grands défis à l'heure actuelle dans nos sociétés, ce sont des défis qui sont déjà globaux, que ce soit les inégalités sociales, que ce soit les migrations, que ce soit, je disais, le terrorisme, il est devenu global, et que ce soit, et c'est l'exemple le plus emblématique en quelque sorte, c'est le changement climatique. Aucun pays, si puissant soit-il, ne peut seul régler, traiter le problème du climat et du réchauffement. Donc, on a une sorte de cercle vicieux, c'est-à-dire que la mondialisation accroît la complexité, les interactions, la multiplication des acteurs et des niveaux d'action, Du coup, la complexité entraîne une sectorisation. On ne peut pas tout traiter en même temps. Donc, on sectorise. Il y a l'environnement, il y a l'économie, il y a la migration, etc. On sépare les questions. Et la sectorisation aboutit à des politiques publiques qui sont incohérentes. C'est-à-dire que d'un côté, au nom des politiques climatiques, on assure le respect à travers les émissions de gaz à effet de serre ou des choses de ce genre. On assure un certain respect pour éviter les effets secondaires du changement climatique. Mais en même temps, on fait le contraire dans les politiques relatives à la croissance. En même temps, il y a une sorte d'encouragement de la croissance. Donc on arrive à une sorte d'incohérence liée, et je crois que c'est pas seulement un problème politique, je crois que c'est un problème de structuration des politiques publiques, dans la mesure où la complexité oblige à la sectorisation et la sectorisation amène à l'incohérence. Actuellement, vous savez qu'il y a une réflexion qui est menée par le CCC, la Convention citoyenne pour le climat. Et j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec les membres de la Convention. Et il y a un projet qui me paraît très intéressant à soutenir, qu'en tout cas pour ma part, je soutiendrai certainement, c'est d'avoir un principe de cohérence. Avoir un principe de cohérence qui rend impossible d'avoir simultanément des politiques publiques complètement contraires les unes aux autres, dont l'une détruit les effets bénéfiques qu'on peut attendre de l'autre. Et d'ailleurs, ça rejoint une proposition que j'avais entendue, je crois que c'était à l'automne, une longue interview de Nicolas Hulot, qui disait, au fond, il faudrait créer une organisation mondiale, non pas de l'environnement, comme on l'a beaucoup dit depuis pas mal d'années, parce que l'environnement, c'est trop sectorisé. Il faudrait créer une organisation mondiale des biens communs. Les biens communs, ça peut être la santé, ça peut être l'environnement, ça peut être la lutte contre la pauvreté, etc. Et au fond, ça rejoint notre idée d'un principe de cohérence. Donc, à l'heure actuelle, la situation est mal enclenchée. Et si vous prenez ces cinq crises, on a beaucoup de mal à les juguler. Même le changement climatique pour lequel il y avait eu un consensus à Paris, la COP21 en 2015... Même dans ce domaine-là, les choses n'ont pas beaucoup avancé depuis 2015. Donc on a l'impression que l'humanité est autour de nous, tout le monde vivant au-delà de nous. Tout ça est pris dans un tourbillon de vent contraire que je vais vous afficher pour que vous en ayez une idée plus concrète. Alors voilà, c'est la rose des vents. Ce sont les vents de la mondialisation. Et vous voyez qu'ils sont... Ils constituent en quelque sorte des paires opposées, des couples qui s'entendent mal. Liberté contre sécurité, compétition contre coopération, innovation contre conservation, intégration contre exclusion. Comment faire avec ces couples de vents contraires ? Alors, si on choisit, c'est la catastrophe. On ne peut pas choisir la liberté contre la sécurité. On a besoin des deux. La sécurité... On a aussi besoin de la liberté, etc. Aucun de ces couples ne peut céder la place à l'un des membres du couple. Donc, il faut arriver à les faire fonctionner ensemble. Et pour le moment, j'aime bien les métaphores nautiques, parce que j'ai fait à une époque beaucoup de bateaux à voile, sans doute. Et il y a une métaphore que j'aime bien pour traduire la situation actuelle telle qu'on commence à la percevoir. C'est le poteau noir. Le poteau noir, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. En fait, c'est une expression qu'on emploie dans la navigation à voile pour décrire un endroit au milieu de l'océan où se rencontrent les alizés du nord et du sud qui soufflent très fort. Alors, c'est tellement violent qu'il y a deux issues possibles, ou la paralysie. C'est, précisément, il n'y a pas d'issue à ce moment-là. Le bateau reste encalminé, les vents se neutralisent mutuellement, donc on ne bouge plus, on ne fait plus rien. Pour moi, c'est un peu l'Europe à l'heure actuelle, bien que la nouvelle commissaire essaye de faire des choses sur l'environnement, on va voir ce que ça donne. Donc ça, c'est la paralysie, ou alors c'est le naufrage, parce que les vents s'entrechoquent et le bateau finit par être coupé en deux. Donc ce poteau noir, on aimerait bien arriver à en sortir. Et au fond, la question que je me pose pour préserver notre fameux triptyque, c'est de savoir comment s'y prendre pour sortir du poteau noir, c'est-à-dire pour préserver ou plutôt pour adapter les trois mots-clés, la démocratie, l'état de droit et les droits de l'homme. Et alors, je vais regarder l'heure parce que je vous ai apporté une petite surprise pour la fin. On a parlé de boussole tout à l'heure. On fera passer une vidéo sur un projet de boussole. Je vais vous dire peut-être d'abord quelques mots sur les trois métamorphoses. J'emploie un mot fort volontairement parce qu'il suffit pas de petits aménagements de détails. Il faut vraiment une métamorphose si on veut rétablir la démocratie, l'état de droit et les droits de l'homme. Alors pour ce qui est de la démocratie, du point de vue politique, on a besoin d'une véritable recomposition. Le principe de base de la démocratie traditionnelle, c'est la séparation des pouvoirs. Le bon gouvernement, pouvoir arrête le pouvoir, donc on sépare le rôle de pouvoir exécutif, le gouvernement, le pouvoir législatif, le Parlement, et le pouvoir ou l'autorité judiciaire, le contrôle par un juge impartial et indépendant. Au fond, la démocratie s'est construite en Europe notamment, mais pas seulement, sur la base de cette séparation des pouvoirs. À l'heure actuelle, dans la mesure où les grands défis sont devenus des défis globaux, la séparation des pouvoirs ne fonctionne plus, parce qu'à l'échelle nationale, aucun État, je le disais tout à l'heure, n'a les moyens de traiter vraiment le changement climatique, les migrations, les crises sanitaires. Maintenant, on a l'exemple des crises sanitaires avec l'exemple tout récent du virus. Aucun gouvernement, aucun pays n'a les moyens de traiter seul. Donc cette séparation des pouvoirs qui est supposée garantir une objectivité, une impartialité, ne peut pas fonctionner. À l'échelle mondiale, on n'a pas de pouvoir exécutif, on n'a pas de pouvoir législatif. En fait, ce sont les États qui exercent ça, les États au sein du Conseil de sécurité, et c'est très inégalitaire. Les États, à travers les négociations des diplomates qui font les conventions internationales. Il y a un petit peu de pouvoir judiciaire qui commence à se mettre en place avec la Cour pénale internationale, mais c'est très limité comme champ d'action. Donc, pour réintroduire un petit peu de démocratie, en fait, ce qui se pratique, c'est pas théorisé au départ, c'est ce que j'appellerais, au lieu de la séparation, l'agrégation. On agrège entre eux, non pas seulement des pouvoirs, le pouvoir impliquant une puissance qui se fait obéir, mais on agrège les pouvoirs, les vouloirs et les savoirs, SVP. La gouvernance, je l'appelle la gouvernance SVP. Gouvernance parce que c'est gouverner sans gouvernement, mais gouverner en associant les pouvoirs, les vouloirs et les savoirs. Alors les pouvoirs, ce sont les pouvoirs des États, les pouvoirs politiques, mais ce sont aussi, et il ne faut pas l'oublier, les pouvoirs économiques. Les grandes entreprises transnationales ont des pouvoirs considérables, bien plus importants que ceux de beaucoup d'États. Donc les pouvoirs sont à la fois économiques et politiques. Les savoirs, ce sont d'abord, mais pas seulement, les savoirs des scientifiques. Vous savez qu'en matière de changement climatique, ce qui a été décisif, c'est le rôle des climatologues quand ils ont sonné l'alarme et quand ils ont commencé à faire connaître les fameux rapports du GIEC, le groupe international d'experts sur le climat. C'est ça qui a fait bouger, en fait. Ce ne sont pas les États, ils n'auraient jamais bougé. C'est le GIEC, ce sont les savants, les climatologues. Mais les savoirs, il ne faut pas négliger non plus ce que ATD appelle le croisement des savoirs. C'est-à-dire il y a le savoir des savants et il y a le savoir qu'ils appellent le savoir des sachants, le savoir du vécu, le savoir de l'expérience vécue. Alors ça peut être, dans le cas des inégalités, l'expérience des plus pauvres qui ont un savoir. Ils avaient organisé, il y a quelques années, des universités du quart monde dans lesquelles, je me souviens, Michel Serres était venu écouter pour apprendre le savoir des plus pauvres sur certaines choses. Donc le savoir de l'expérimentation, ça peut aussi être, en matière d'environnement, le savoir des populations autochtones, qui est souvent beaucoup plus profond et pionnier, je dirais, que le savoir même des savants. Donc il y a le savoir assez différent, sous ses différentes formes, je ne dirais pas à ses différents niveaux, mais plutôt sous ses différentes formes. Et puis les vouloirs, alors les vouloirs, ben, c'est la volonté citoyenne, en fait, c'est la volonté de vous, de moi, des organisations non gouvernementales aussi, des syndicats, de tous ceux qui se sentent déjà un peu citoyens du monde, un peu porteurs, responsables de l'entretien des biens communs mondiaux. Je ne dis pas les biens communs de l'humanité, parce que ce serait une manière de remettre l'humanité au centre, mais nous sommes tous un peu responsables des biens communs mondiaux. Et les États devraient aussi se sentir responsables. Au niveau des acteurs publics, ce qui est important, et je le dis d'autant plus volontiers ici à Aubervilliers, c'est qu'il y a le rôle important, le rôle moteur, est plus joué au niveau des collectivités territoriales qu'au niveau des États. Il y a des réseaux, les villes se mettent en réseau, je ne sais pas si c'est le cas d'Aubervilliers pour le changement climatique ou pour d'autres questions, mais il y a des réseaux qui se constituent, des réseaux horizontaux, ce n'est pas vertical, il n'y a pas d'hierarchie, il n'y a pas un commandement et un qui obéit, mais il y a des réseaux horizontaux qui permettent de faire face et de créer une bonne gouvernance. Alors cette agrégation savoir-vouloir-pouvoir est peut-être une forme de démocratisation potentielle. Il ne faut pas non plus être naïf. Il y a des conflits d'intérêts, qu'il s'agisse des scientifiques ou qu'il s'agisse des organisations non gouvernementales. Il y a beaucoup de conflits d'intérêts. Donc il faudrait, pour avancer dans ce sens-là, il faudrait sans doute un statut qui garantisse l'impartialité et l'indépendance des experts. Éviter que les décideurs choisissent un expert dont ils savent à l'avance qu'il va soutenir les mêmes thèses qu'il entend développer lui-même. Alors, voilà pour la première métamorphose qui serait de l'ordre politique. Vous voyez, il y a encore du chemin à faire. Alors ensuite, il y a une deuxième métamorphose qui serait plus juridique et que je le pose sous forme de question, parce que la question, c'est comment responsabiliser les principaux acteurs de la mondialisation, c'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir. Comment responsabiliser les titulaires de pouvoir? C'est ce qui est le plus difficile. Comment responsabiliser les États? Comment responsabiliser les grandes entreprises? Alors là, on fait ce que j'appelle volontiers du bricolage juridique. C'est un mot que les juristes, la plupart du temps, détestent. Moi, je l'aime bien parce qu'il est modeste. Et en même temps, ben, on fait avec les moyens du bord. Comme on n'a pas de grandes conventions qui permettent d'avoir un pouvoir organisé, un État mondial, un Parlement mondial, ça n'existe pas. Alors on fait avec les moyens du bord. C'est-à-dire que pour responsabiliser les États, on a à la fois le droit national et le droit international. Le droit national, en principe, il est réservé à ce qui se passe sur le territoire national. Mais il y a des processus qui se mettent en place d'internationalisation du droit national. Par exemple, là, dans le cadre de la Convention sur le climat, on est en train d'essayer d'introduire dans la Constitution française la notion de bien commun mondial. Si on arrive à l'introduire, ça veut dire qu'on pourra faire entrer un peu de droit international dans l'interprétation du droit national. Et il y a déjà des procès climatiques. Les procès climatiques, ce n'est pas très vieux, ça a commencé en 2017. Vous voyez, ça fait à peine, même pas 3 ans. Et les procès climatiques ont fait du bricolage, notamment le premier, qui est un procès qui a eu lieu aux Pays-Bas. Ils ont obtenu gain de cause, c'était d'une association et des simples citoyens, en soutenant que le gouvernement néerlandais, qui n'avait pas respecté ses engagements internationaux sur la limitation des émissions de gaz à effet de serre, était responsable devant ses citoyens. C'est-à-dire que ce sont des citoyens néerlandais qui ont fait un procès à leur État pour mettre en cause sa responsabilité pour violation d'une convention internationale qu'il avait ratifiée. Alors ça, c'est bricolé, c'est-à-dire on fait du neuf avec de l'ancien. L'ancien, c'est le droit national, on l'internationalise. Et il y a le phénomène inverse qui est intéressant aussi, c'est-à-dire qu'on prend du droit international et on le contextualise, on introduit des différences d'un pays à l'autre selon le contexte. C'est ce que fait la Cour européenne des droits de l'homme avec la notion de marge nationale d'appréciation. C'est ce qu'on fait en matière climatique avec la notion de responsabilité commune mais différenciée. Commune parce qu'on a les mêmes objectifs, tous les pays qui ont signé ou ratifié l'accord de Paris sur le climat ont adhéré au même objectif, mais différenciés parce que l'histoire de tous les pays n'est pas la même. Il y a ceux qui ont pollué pendant des siècles, ceux qui n'ont jamais connu le développement. L'histoire économique n'est pas la même. L'histoire culturelle n'est pas la même. La vulnérabilité de certaines îles, par exemple, est plus forte que d'autres. Donc, il y a toute une différenciation. Au fond, c'est l'idée que le droit international peut être contextualisé, que le droit national peut être internationalisé. Ça, c'est du bricolage. Il ne faut pas oublier que c'est le mot qu'employait François Jacob, le grand prix Nobel de biologie, pour expliquer l'évolution du vivant. Il disait, le vivant, c'est fait par bricolage. Et le bricolage, c'est faire du neuf avec de l'ancien. Alors, j'ai gardé la formule, mais je pense qu'on peut l'appliquer dans le domaine juridique. Alors, on peut l'appliquer aussi pour responsabiliser les entreprises transnationales. Parce que là, le problème, c'est que le droit international ne reconnaît pas d'autres acteurs sur la scène internationale que les États. Les entreprises, eh bien, elles ne sont pas directement acteur, donc on ne peut pas remettre en cause, par exemple, si une entreprise est complice de crimes contre l'humanité commis sur des territoires en Afrique ou ailleurs, ou si elle commet elle-même des violations des droits de l'homme, on ne peut pas la poursuivre devant une cour des droits de l'homme. Elle n'est pas sujet de droit. Alors, c'est un peu paradoxal, parce que si vous prenez en Europe, on a la Convention européenne des droits de l'homme, une entreprise peut porter plainte parce qu'on n'a pas respecté son droit à un procès équitable, par exemple. Mais si elle viole un principe fondamental, ça peut être l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants ou autre, elle ne peut pas être poursuivie devant la Cour des droits de l'homme. Donc là, l'idée pour responsabiliser les entreprises, c'est d'introduire des moyens de mettre en cause ce type de comportement. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Mais là aussi, on retrouve l'idée de bricolage, parce que le droit de l'entreprise, il s'est surtout constitué à base de ce qu'on appelle soft law du droit. En fait, soft, c'est subtil, parce que c'est à la fois le droit doux, parce qu'il n'est pas sanctionné, c'est le droit flou, parce qu'il est mal défini, et c'est le droit mou, parce qu'il est facultatif. Alors, le flou, le mou et le doux, c'est ça le point de départ. Alors, on arrive progressivement à durcir ce droit. En partant d'une disposition, par exemple, qui n'est pas obligatoire, on va tirer des conséquences de la violation, on va la rendre obligatoire. Et on arrive en même temps à assouplir le droit trop dur en faisant, par exemple, des conventions, des médiations avec le procureur pour éviter qu'un procès interminable qui n'aboutit jamais, mais pour permettre une véritable sanction immédiate. Donc voilà pour le bricolage juridique, c'est notre deuxième piste. Alors on a encore un petit peu de temps pour la dernière piste, qui est la dimension donc politique, juridique, la dimension que j'appellerais anthropologique. C'est la troisième métamorphose, c'est autour des droits de l'homme. Qu'est-ce qu'on appelle droit de l'homme ? Quelle vision avons-nous de l'humanisme ? Le mot humanisme, il est très dévalorisé, on ose à peine l'employer. Et Foucault expliquait ça très bien quand on lui disait, mais enfin, quand vous annoncez la mort de l'homme, qu'est-ce que vous voulez dire ? Il disait, écoutez, ce mot d'humanisme, je l'ai entendu vraiment à toutes les sauces après la guerre, et il est devenu inutilisable. Il faut lui redonner sa couleur. Je me tourne vers Barbara, qui a l'art des mots. Il faut lui redonner sa couleur, sa force et sa réalité. Alors, l'idée que je développe et que vous retrouverez sur la boussole que je vais vous présenter, c'est qu'au fond, l'humanisme, il ne faut pas le mettre au singulier, il faut le mettre au pluriel. Il y a des humanismes, parce qu'il y a plusieurs visions de l'humanité dans sa relation avec la relation entre les humains et la relation entre les humains et les non-humains. Disons qu'il y a la vision peut-être la plus ancienne, la plus enracinée dans l'histoire, qui est l'homme, l'humanité en relation. L'humanité en relation, c'est celle qui nous amène au principe de fraternité, au principe d'hospitalité, qui est un vieux principe pratiqué à l'époque de l'Antiquité, qu'on avait oublié et qu'on redécouvre avec les migrations. Mais ça, c'est l'humanité de la relation. Après, on a eu ce mouvement très fort en Europe de la philosophie des Lumières, et l'humanité émancipée. Alors, l'humanité émancipée, c'est l'individu. C'est l'individu qui ne doit pas être réduit à son appartenance à tel ou tel groupe. C'est important aussi. C'est de là que dépend notre égalité, notre égale dignité. Égalité, dignité, c'est l'article 1er de la Déclaration universelle qui est très proche de l'humanité émancipée. C'est donc un point très important. C'est ce qui permet de résister à la torture, par exemple. Au nom de l'égale dignité, on peut condamner un pays, au moins en Europe, qui torture, y compris des terroristes présumés ou même condamnés. Donc on a cet humanisme de l'émancipation. Et puis, quand je parle beaucoup de climat, d'environnement, de ces questions-là, d'inégalité sociale aussi, j'arrive à l'idée d'un humanisme des interdépendances. On a beaucoup glosé sur l'indépendance, qui était un moment important dans l'histoire des États, mais les interdépendances, c'est la situation actuelle. Et il y a un humanisme des interdépendances avec des principes qui sont des principes de solidarité, en fait. Solidarité entre les humains, solidarité avec les non-humains. Et puis, il y a peut-être une quatrième vision de l'humanisme qui est sans doute utile face au développement de certaines des nouvelles technologies dont auquel j'ai fait une allusion. Je dirais que c'est l'humanisme de la non-détermination. L'humanité ne doit pas être considérée ou traitée comme prédéterminée. C'est un peu ce qu'on a commencé à faire avec la loi sur la dangerosité. Une personne étiquetée personne dangereuse peut rester en prison alors qu'elle a déjà purgé sa peine au motif qu'elle risque, si on la laisse sortir, de commettre de nouvelles infractions. C'est une sorte de justice prédictive qui se met en place, qui est très dangereuse et qui supprime l'idée de responsabilité. Parce que si on est prédéterminé, on n'est plus responsable. Donc ça, je crois que c'est important de le situer sur ce que j'appellerais la spirale des humanismes, situer cet humanisme de la non-détermination parce qu'il commande à la fois la responsabilité et la créativité. Et la créativité, c'est peut-être le propre de l'homme. Et en tout cas, c'est ce qui a permis sa survie à travers les siècles, mais plus encore. Donc, on arrive à cette refondation anthropologique autour des différents humanismes, chaque humanisme engendrant des principes régulateurs comme ceux que je viens d'énoncer. Alors, sous ce long discours, pour amener à l'idée simple que nous sommes à la recherche pour arriver à combiner ces différentes visions, ces différentes métamorphoses, nous sommes à la recherche d'une boussole. Et là, je vais vous passer un petit film que nous avons pris avec un projet qui est un projet que nous faisons à deux, avec un plasticien, pour essayer d'imaginer ce que pourrait être la boussole qui permet de repérer les choix dans ce monde totalement déboussolé. C'est le mot qu'on entend le plus, c'est déboussolé, j'ai perdu mes repères. Alors, comment retrouver des repères? Je dirais simplement que la boussole que je vais vous présenter, elle n'est pas tout à fait habituelle. Elle est même plutôt inhabituelle. Pourquoi? Parce qu'une boussole, il y a une rose des vents, mais il y a un pôle aimanté, le pôle nord. Or, dans la boussole que je vais vous présenter, il ne peut pas y avoir un pôle nord. Avec la mondialisation, on ne peut pas choisir une direction ou une conception de l'humanisme plutôt qu'une autre. Il faut que l'ensemble puisse fonctionner simultanément. Donc, c'est une boussole, mais sans pôle nord. Et en réalité, ce qui est aimanté dans la boussole, c'est le centre dans lequel il y a les principes de bonne gouvernance. Et c'est ça qu'on va essayer de repérer. Et je répondrai peut-être plus précisément ensuite à vos questions sur le film ou sur l'exposé. Alors, il faut que j'arrive à faire marcher la chose.
État d'urgence sur la planète. Pris dans le tourbillon des vents nés de la mondialisation, nous sommes tentés de nous replier sur les États-nations, ultime refuge. Refuge illusoire. Le déni, l'irresponsabilité nous mènent dans ce lieu maudit où les vents contraires se rencontrent, paralysie ou naufrage, le poteau noir. À l'affût de la moindre brise, il nous faut une boussole. Une boussole inhabituelle, car aujourd'hui, aucune direction ne l'emporte. Il faut s'y résoudre. Dans la communauté mondiale émergente, pas de pôle nord. Dépassé par les enjeux environnementaux, même l'humanisme ne suffit plus à nous guider. D'autres générations, bien avant nous, avait fini par admettre non sans mal que la Terre n'était pas au centre du système solaire. Aujourd'hui, nous devons reconnaître que les humains ne sont pas au centre de la Terre. Quel destin alors pour l'humanité ? Comment fabriquer cette boussole pour nous orienter dans ce grand bazar ?
Partir d'un repère, d'un point sûr, le sol, la terre. La rose des vents, minérale, massive. Se projeter dans l'espace, dans les airs. Lutter contre la pesanteur.
Entrer dans la danse, participer.
Retenir l'essentiel, le petit souffle innommé, l'élan vital du citoyen du monde. Et puis, enfin, aspirer au calme.
Fraternité, hospitalité, égalité, dignité, solidarité humaine, solidarité écologique, responsabilité, créativité.
Stabiliser sans immobiliser.
Pacifier sans uniformiser.
Merci infiniment pour cette roborative conférence et ce joli film. J'ai noté un certain nombre de couples de termes dialectiques en dehors de ce que vous avez vous-même cité dans le cadre de votre conférence en lisant Sortir du poteau noir, qui est une lecture que je vous recommande vivement. Et si je peux me permettre, l'une d'entre elles m'interpelle en particulier parce que je trouve que la réponse à cette question dialectique n'est pas tout à fait évidente. Vous abordez la question de la punition qui arrive trop tard, ce qui est quelque chose qu'on expérimente extrêmement souvent et dans de multiples domaines, à savoir qu'on se dit, pour se rassurer, que tel comportement déviant sur le plan ici international ou qui crée un dommage cruel à une partie de l'humanité ou une partie de l'environnement, etc., s'il y a une sanction... Finalement cette sanction arrive trop tard parce que le mal a été subi et que ce mal est irréversible et que finalement la sanction ne guérit pas le mal, elle ne fait que présenter une forme de compensation qui n'est souvent pas à la hauteur du mal qui a été causé. Et vous reprenez la dialectique de Foucault sur surveiller et punir et vous montrez comment elle se transforme en surveiller et anticiper pour éviter que le mal ne soit commis. Malheureusement, le dévoiement, vous l'avez très bien montré dans la première partie de votre intervention, le dévoiement de cette surveillance qu'on peut estimer tout à fait nécessaire pour vérifier que les États, que les entreprises se comportent à la hauteur des engagements qui sont les leurs, à la hauteur des responsabilités qui sont les leurs. Cette notion de surveiller et anticiper, elle est complètement dévoyée contre les citoyens cette fois-ci.
Oui, mais ça, je suis d'accord.
Oui, oui.
Ça marche, c'est-à-dire l'idée d'avoir de l'anticipation, d'avoir une sorte de prévention, c'est important pour des questions comme l'environnement. Parce que si on arrive alors que tout est détruit, un arbre, ça met longtemps à repousser, et un environnement aussi. Mais ça vaut pas la transposition, au fond, d'une sorte de principe de précaution des produits dangereux aux êtres humains me paraît inacceptable. Passer des produits dangereux à des êtres humains, c'est pas la même chose. Donc on peut accepter le principe de précaution pour les produits dangereux, mais pas pour les êtres humains.
On est d'accord.
Parce que si on l'accepte pour les êtres humains, et si en même temps on accepte cette justice prédictive ou cette police prédictive, parce que les fameuses listes de suspects, c'est ça, c'est une sorte de police prédictive, alors on entre dans un univers totalitaire.
On est bien d'accord. Autre petite question, et je passe la parole à la salle. Vous développez, alors vous l'avez en partie abordé dans votre conférence, vous développez le concept de mondialité. À propos, alors évidemment en lien avec Glissant, et vous le développez en trois, dans un triptyque, tous différents, tous interdépendants et tous solidaires. Et vous avez parlé de l'interdépendance et de la solidarité, peut-être moins de la question de la différence aujourd'hui. Alors, vous dites quelque chose de très intéressant, puisqu'on a une difficulté avec les différences, comment résoudre les différences.
Et, il ne faut pas les résoudre, justement.
Alors, justement, mais ce que vous proposez, c'est de postuler que les différences soient compatibles, c'est-à-dire d'admettre un pluralisme de la différence, avec cette limite que les différences doivent néanmoins être compatibles les unes avec les autres, pour pouvoir, j'imagine, coexister dans une cohérence
pacifiée. Mais bon. Compatible, ça ne veut pas dire conforme. Donc ça ne veut pas dire qu'on supprime les différences. Je fais une différence entre compatibilité et conformité. Conforme, ça doit être exactement identique. Et donc, il n'y a plus de différence si on impose la conformité à un principe commun, par exemple. Et si on dit compatibilité, c'est une logique de gradation. Donc, on garde des différences, on fait en sorte qu'elles soient vivables. Mais tout ça ne se fait pas en un instant. Il y a ce qui est important dans cette... au fond, on dit mondialité, mais il faudrait un mot qui exprime une dynamique. On va vers. Dans la vidéo, à la fin, on dit stabiliser sans immobiliser, pacifier sans uniformiser. C'est ça, au fond. C'est l'idée qu'on est dans un mouvement. On n'est pas dans une vision statique du monde, immobile, fixiste. On est dans un mouvement. Et tout ce qu'on peut essayer de faire, c'est d'orienter le mouvement plutôt dans le sens de la pacification que dans le sens inverse. Donc c'est ça. C'est, je raisonne de moins en moins en matière juridique avec des concepts stables, parce que le droit se transforme à une telle vitesse et le monde se transforme à une telle vitesse qu'il me semble prioritaire de travailler sur les processus transformateurs. Je ne parle plus tellement de concepts fondateurs, par exemple pour les droits de l'homme, mais de processus de transformation. À partir de la Déclaration universelle, on n'a pas réussi à instaurer partout l'égalité, la dignité, etc. Mais on a mis en place des processus transformateurs qui ont commencé à transformer certaines choses. Avec tous les instruments de protection des droits de l'homme, on a mis en place un mouvement, une dynamique. Et pour moi, c'est ça qui est important pour retrouver le souffle aussi. C'est d'introduire cette dynamique.
Alors, je reste juste un instant sur la question de la différence, parce qu'évidemment, moi, je me dis comment on fait pour évaluer ces différences et selon quels critères, quelles règles on considère qu'elles sont compatibles ou pas, qu'elles peuvent coexister. Et je voudrais donner un exemple qui peut-être n'a pas grand-chose à voir, mais qui me frappe et qui me pose question et que je trouve d'une telle complexité que je n'ai pas du tout d'avis tranché sur cette question-là, mais elle me semble abyssale. Vous avez peut-être, vous savez que je m'occupe de liberté de création, vous avez peut-être entendu le débat, pour ne pas dire le scandale, qu'il y a eu autour de la pièce Kanata, dont Ariane Mnouchkine et Robert Lepage sont co-auteurs, à cause débat qui est parti du Canada, de revendications de personnes autochtones, contestant notamment le fait qu'il n'y avait aucun comédien autochtone dans la représentation et que la pièce était à propos de l'histoire, d'une partie en tout cas de l'histoire des autochtones au Canada. Alors, ce n'est pas de ça dont je veux vous parler, mais c'est le contexte. Il se trouve qu'une des autochtones juristes universitaires à l'UQAM, donc la grande faculté de Montréal, s'appelle Alexandra Lorange. Et elle, il y a quelques jours, des scientifiques ont contesté, et cela a été corroboré par la tribu dont elle disait qu'elle faisait partie, ont contesté son appartenance à la nation autochtone dont elle se revendiquait. À partir de là, on se pose une première question qui est comment quelqu'un qui n'est pas autochtone peut revendiquer qu'il est autochtone et aller contredire une pièce qui parle des autochtones. Mais ça n'est pas fini, puisque j'ai lu hier qu'elle avait perdu son poste à l'université, que sa tête avait donc été demandée et obtenue. Et évidemment, il y a sur les réseaux sociaux de grandes discussions sur cette question de l'identité. Et c'est un peu à là que je veux en venir. Question de l'identité que vous n'abordez pas beaucoup et qui, à mon avis, si je peux me permettre, j'ai pas l'impression qu'elle vous intéresse beaucoup cette question-là.
C'est l'identité.
Ou c'est pas du tout une critique. Hein.
Je vais vous dire la phrase que j'aime beaucoup, c'est que emploie Glissant justement à propos de l'identité. Il dit changer en échangeant sans me perdre ni me dénaturer. Et pour moi, l'identité, c'est ça, changer en échangeant sans me perdre.
Donc elle n'est pas fixe.
Elle n'est pas fixe, elle s'enrichit de l'autre. Et je peux. Alors, plus j'approfondis ma propre identité, plus je me rapproche. C'est une autre image qu'employait Ricoeur en disant si je marche à la surface de la sphère, je ne rencontre jamais l'autre. Mais si je vais vers le fond, et si l'autre fait le même effort d'approfondir, nous nous rencontrons quelque part. Donc c'est un peu ça ma vision de l'identité.
Mais vous comprenez que de la part de peuples dont on a brisé l'identité culturelle, dont on a pris les enfants pour qu'ils soient adoptés par des familles non autochtones, le point de vue soit radicalement différent et qu'en fait la boussole soit complètement perdue.
Ce qui m'avait frappé quand même sur ces questions de mise en compatibilité, c'est la réaction d'Abdelwahab Medeb. Vous savez, ce philosophe tunisien qui est mort très brutalement en fait, d'un cancer. Il pensait que c'était l'État islamique qui lui avait donné ce cancer, sans de métaphore. Et bon, il travaillait sur ces questions à travers une expérience plus douloureuse, puisqu'il avait vécu ces problèmes. Et il avait repris ce terme de compatibilité. Ça lui paraissait être une voie possible. C'est pas, ça ne résout pas tout. On n'a pas une formule magique qui permettrait de tout résoudre, mais c'est une voie, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'évolutif. La compatibilité, elle peut être très faible au début. Mais dans la mesure où on a cet objectif, cet horizon de se rapprocher, on peut garder le contact. On peut échanger, changer en échangeant. Et on peut espérer qu'à force de changer en échangeant, on se rapprochera. Mais ce n'est pas garanti. Il n'y a pas de garantie absolue. Il n'y a pas de solution miraculeuse. Mais je crois que ce qui est important, c'est de savoir dans quel sens aller. Et pour revenir au triptyque, en fait, ce qu'il faudrait dire, c'est qu'il y a un fait incontestable, et bien que contesté par beaucoup de chefs d'État notamment, c'est que nous sommes interdépendants. C'est un fait, c'est une réalité. Donc nous sommes interdépendants, il est donc logique et nécessaire que nous soyons solidaires. Parce que si on est interdépendant, ça veut dire qu'on aura le même destin. Hein. On coulera ensemble ou on se sauvera ensemble. Donc on a besoin d'être solidaires. Autrement dit, l'enchaînement interdépendance, tous interdépendants, tous solidaires, ça tient la route. Après, rester tous différents, c'est un choix. C'est beaucoup plus difficile parce qu'on peut être interdépendant et solidaire et tous identiques. Et on peut avoir une sorte d'objectif d'uniformisation. Et le choix, alors c'est le choix de Glissant ou de Chamoiseau, c'est mon choix aussi, mais c'est un choix indémontrable. C'est qu'il vaut mieux rester tous différents. Ça fait partie de la richesse et du potentiel de l'humanité et de la dimension indéterminée aussi. Donc tous différents, ce n'est pas sur le même plan.
Oui, moi j'aimerais juste relancer et puis ensuite on va passer la parole très vite à la salle. Mais je voudrais juste dire que pour que ce choix fonctionne, il ne faut pas faire le choix d'une identité fixiste.
Non.
Et c'est exactement ça que vous avez souligné quand vous dites, au fond, c'est une énergie dont il s'agit. Et c'est pour ça que je prends toujours l'exemple de la langue. La langue n'est jamais fixée complètement.
Elle évolue
tout le temps. Donc, de même que la traduction est un savoir-faire avec les différences...
traduction, c'est une métaphore formidable.
C'est une très bonne métaphore.
Faire du semblable avec du différent.
Voilà.
C'est ce que disait Ricoeur. C'est un miracle,
absolument.
Parce qu'on fait du semblable avec du différent.
Voilà. Et ça ne fonctionne que parce que la langue, aucune langue n'est fixée, une fois pour toutes.
Et on ne peut jamais traduire parfaitement.
Et donc,
il y a toujours du jeu.
Voilà. Et donc, c'est comme ça que la réponse à la Orange, Madame Orange, là, doit fonctionner. C'est-à-dire qu'elle voulait une identité fixiste. Bon, et elle est fausse. Ah. Deux bêtises valent mieux qu'une. Bon, c'est tout ce qu'on peut dire.
Juriste.
Hein ?
Et elle était juriste.
Trois bêtises valent mieux qu'une.
Les juristes aiment bien les choses fixes. Hein. Ouais. Ça ne m'étonne pas tellement.
C'est vrai.
Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est important aussi avec la notion d'appartenance, c'est la pluri-appartenance.
Oui.
D'avoir la possibilité d'appartenir simultanément à plusieurs ensembles différents.
Oui.
C'est essentiel.
Absolument, mais si je peux continuer avec la langue, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on ne sait qu'on parle une langue et que c'est une langue que l'on parle quand on en parle deux ou quand on en connaît deux, quand on en entend deux. Donc on a une identité non fixe pour une vraie raison qui est que sinon on n'en a pas du tout.
C'est la phrase de Bachelard que vous citiez tout à l'heure.
Oui, la phrase de Bachelard qu'on citait tout à l'heure, c'est « il faut être deux ou du moins avoir été deux pour nommer une aurore ». Très jolie.
Poétique. Alors, à propos de poétique, d'ailleurs, sur la notion de mondialité, j'aime beaucoup la définition qu'en donnent Glissant et Chamoiseau quand ils disent c'est une politique des solidarités et une poétique des différences. Politique des solidarités, poétique des différences, ça me paraît très, très fort et très juste en même temps. Et ça, c'est ce qui remplacerait... Alors, on va dire c'est une utopie réalisable... Je ne suis pas sûre. C'est ce qui remplacerait la mondialisation sauvage par la mondialité pacifiée et pacifiante.
Moi, je vote pour. Est-ce que le public a envie de poser des questions ?